Bon réveil avec nos philosophes, voici le journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'actualité ce matin, c'est notamment une nouvelle année noire pour le chômage en France. Les résultats du mois de décembre surlignent la crise que connaît notre pays sur le front de l'emploi. Analyse dans un instant, signée Annabelle Grelier. De nouvelles expulsions sur le site de Notre-Dame-des-Landes. La justice nantaise doit se prononcer sur l'occupation d'une maison par une douzaine de squatteurs, des trentenaires qui défendent sur place un projet agricole. Dans ce journal, vous entendrez leur détermination à faire acte de résistance. Et puis, la philosophe Sandra Logier nous dira pourquoi il faut parfois désobéir en démocratie. Enfin, nous reviendrons à la fin de cette édition sur le départ de Christiane Taubira. C'est Jean-Jacques Urvoas qui va prendre sa place. L'homme est plutôt apprécié par des parlementaires. Nous verrons cela avec Frédéric Seyss à la fin de cette édition. Priorité numéro un des Français devant les questions de sécurité, la lutte contre le chômage est tout sauf une réussite. Et les chiffres publiés hier par Pôle emploi pour le mois de décembre en sont une fois de plus la preuve incontestable. Les résultats sont mauvais et soldent ainsi une année 2015 synonyme d'échec pour les pouvoirs publics. Annabelle Grelier.
L'année 2015, une nouvelle année noire pour le chômage. Certes, cela n'aura pas été la pire, ce serait même la plus faible hausse depuis 2010, avec une augmentation de 2,6%, c'est presque moitié moins qu'en 2014. Mais peu de signes réjouissants tout de même. Un seul point positif, la baisse du chômage des jeunes de 4% sur un an. La multiplication des contrats aidés relativise la bonne nouvelle, mais en 2015, il faudra encore s'en contenter. Les seniors, en revanche, voient leur situation se dégrader inexorablement, plus 0,6% sur un mois et plus 8,4% sur un an. Autre point noir, le chômage de longue durée qui continue de gagner du terrain. Fin 2015, 2 470 000 demandeurs d'emploi, petite activité comprise, étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an. Un chiffre en hausse de 0,8% en décembre et de 9,5% sur l'année. Le gouvernement veut combattre ce fléau par la formation professionnelle. Il va mobiliser 1 milliard d'euros dans le cadre de son plan d'urgence pour l'emploi. Dernière cartouche de François Hollande pour espérer voir baisser le chômage avant la fin de son mandat. Une rencontre avec les présidents de région est prévue le 2 février prochain. Des présidents de région qui appelaient dès hier soir le gouvernement à prendre des décisions fortes en matière de transfert de nouvelles compétences. Les régions qui veulent être les seuls pilotes des politiques d'emploi et de formation, affirmait-elle hier dans un communiqué.
L'autre grande priorité après le droit du travail, c'est le droit au logement avec pour tous un habitat digne de ce nom. Or, il s'avère qu'en 2015, dans un pays qui se targue de faire partie des grandes puissances mondiales, près de 15 millions de personnes vivent dans des conditions particulièrement difficiles, au point que la Fondation Abbé Pierre, qui publie ce matin son 21e rapport sur le sujet, affirme que la France est malade du mal logement. La formule est d'ailleurs à prendre au sens figuré comme au sens propre, Aurélie Kiefer. Les problèmes de santé sont en effet multiples pour les sans-abri et les familles qui vivent dans des logements qui ressemblent souvent à des bidonvilles.
Manque d'hygiène, problème d'accès à l'eau, les sans-abri sont logiquement les plus exposés. Ils souffrent de maladies respiratoires, d'affections dermatologiques et la privation de logement ne fait qu'aggraver les addictions ou les troubles mentaux. Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.
L'espérance de vie des personnes à la rue est bien inférieure au reste de la population. Je rappelle qu'à la rue, il y a près de 2000 personnes qui meurent chaque année, à 49 ans en moyenne. Donc c'est un scandale sanitaire de grande ampleur. Je rappelle également que les personnes qui vivent en bidonville voient leur santé dégradée de manière très grave aussi. La mortalité néonatale est 8 fois supérieure au reste de la population. Donc on est face à des risques pour la vie des gens.
L'habitat indigne est lui aussi à l'origine de nombreux troubles. Le saturnisme infantile a beaucoup baissé, mais il touche encore 5000 enfants. 20% des logements sont trop humides et les moisissures peuvent entraîner de l'asthme ou des allergies. Un chauffage insuffisant augmente le risque de bronchite, arthrose, angine et les accidents domestiques sont plus fréquents dans des lieux inconfortables et exigus. D'où l'appel lancé par Christophe Robert, délégué général de la Fondation, en direction des personnels médicaux.
Il faut absolument qu'on élargisse, on va dire, la coalition de lutte contre le mal logement et les médecins ont une place déterminante parce qu'eux, ils voient bien que ça ne sert à rien. On va recevoir à l'hôpital quelqu'un qu'on va soigner, mais on va le remettre dans son logement pourri, sachant que la cause de sa maladie, c'est le logement. Et donc, il faut agir simultanément sur la question de la réponse en logement, la réponse sociale et la réponse médicale. Il faut que ces médecins, ces acteurs du médico ou du médico-social soient avec nous pour pousser dans le sens d'une politique de traitement de mal logement dans notre pays.
Et la Fondation Abbé Pierre cite en exemple le Royaume-Uni. où les médecins peuvent prescrire des chaudières ou un double vitrage aux patients touchés par la précarité énergétique.
Voilà, dossier signé Aurélie Kiefer qui évoquera dans le journal de 8h sur France Culture le droit au logement et la mixité sociale. Seront-ils à leur tour délogés par la justice comme le demande la filiale du groupe Vinci chargée, on le sait, du projet d'aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Après l'audience de lundi qui concernait les habitants historiques, le tribunal de grande instance de Nantes examine aujourd'hui une autre demande d'expulsion. Elle vise les occupants d'une maison située sur la ZAD, ils sont une douzaine de squatteurs à avoir investi les lieux avec un projet agricole. Sur place, Véronique Rebérotte a ainsi rencontré Jeanne et Camilla.
Quoi qu'il arrive, à plus ou moins long terme, on va être expulsable. Mais il ne faut pas oublier que c'est le cas de beaucoup de gens ici, en fait, notamment les paysans. Il y a notre cas à nous, mais ça s'inscrit aussi dans quelque chose de plus large avec lequel on est en lien.
Vous avez fait le choix de vous installer récemment.
Oui. D'où venons-nous avant? Il y a des urbains, il y a des ruraux. Bien sûr, il y a d'autres endroits pour cultiver la terre. Tout dépend de ce qu'on veut faire. En fait, on a choisi ici parce que on a un lien fort avec la lutte qui nous semble extrêmement importante, qui est au-delà de la lutte d'aéroport. C'est aussi une lutte ici pour la terre, donc ça a sens ici de produire.
Mais quand on se balade sur la zone, on voit que des projets constructifs. Avant de s'installer ici, on est venu passer du temps avec eux, regarder tout ce qui se faisait. Justement, c'est ce qu'on a trouvé magique, déjà, c'est toute la force qu'il y a ici pour pouvoir être dans cette autonomie, dans cette lutte, et qui montre que l'effort collectif et qu'une autre façon de faire qui est dans la société actuelle, c'est possible en fait, et qu'on est beaucoup plus heureux.
Comment vous allez vous mobiliser si demain on dit qu'il faut que vous partiez, vous aussi?
Évidemment, ici, ça, il va y avoir de la défense du lieu, c'est évident. Des blocages, des manifestations devant les lieux de pouvoir. Avec les gens qui sont ici et avec les soutiens qui sont dispersés partout, en France et au-delà même.
Vous allez rester?
Évidemment, sinon on ne serait pas là. On n'aurait pas engagé toute cette énergie si on n'avait pas la ferme intention de rester.
Défendre le lieu, rester sur place et contre-attaquer en allant défier en face à face les lieux de pouvoir. La douceur des voix que l'on vient d'entendre ne masque pas la détermination des occupants de la Noé Verte. C'est le nom de cette maison, située donc dans la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Bonjour Sandra Logier.
Bonjour.
Vous participez à cette matinale des philosophes sur France Culture. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit avec le sociologue Albert Augien « Pourquoi désobéir en démocratie ?» Et vous avez choisi ce matin, Sandra Logier, de rebondir sur cette opposition au projet d'aéroport.
Oui, le penseur américain Henry David Thoreau, le jour où il s'installe à Walden, le 4 juillet, décide qu'il vivra seul dans les bois, dans la cabane qu'il bâtit de ses propres mains. Et c'est l'esprit du zadisme, de ces désobéissants qu'on a entendu, de la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Une ZAD, ZAD, c'est une zone d'aménagement différé, mais on a rebaptisé cela, vous l'avez entendu, zone à défendre, et les zadistes défendent leur lieu, leur maison. La désobéissance prend ici aussi la forme de l'occupation, de la réappropriation d'une terre à soi. Le juge a ordonné lundi l'expulsion des 11 familles, des 4 agriculteurs récalcitrants de la ZAD, bientôt des squatteurs, et les opposants au projet d'aéroport reprennent le mot d'ordre, désormais, de désobéissance citoyenne. La désobéissance, c'est le refus volontaire et ostensible, public, de remplir une obligation légale au motif qu'elle viole un principe supérieur, et elle se fonde dans la confiance en soi, cette tranquille détermination qu'on entend et qui encourage l'individu à refuser la loi si, en son âme et conscience, il la juge injuste. Comme Rosa Parks, cette femme noire qui, 1955, il y a 60 ans, a refusé de se lever dans un bus pour laisser sa place à un homme blanc, devenant ce jour-là le symbole de l'action pour les droits civiques, en se faisant arrêter et en révélant par là l'indignité morale de sa nation.
Alors si je vous suis, Sandra Logier, la désobéissance fait donc bien partie intégrante finalement de la démocratie, de cette idée de démocratie.
Oui, en réalité, la désobéissance, ça n'est pas un refus, ce n'est même pas une limite de la démocratie. Elle en appelle toujours à une extension ou à la préservation des droits et des libertés de tous et de toutes. Elle est le révélateur de dernier recours aussi de la dégradation de la démocratie. Donc pourquoi désobéir en démocratie, pour ce titre? Mais justement, on ne désobéit qu'en démocratie. On a non seulement le droit, mais le devoir de résister, de désobéir lorsqu'un pouvoir agit contre ses propres principes et menace ce pourquoi il a eu notre consentement et notre voix. Pas de chance au moment où la désobéissance revient à la ZAD, Christiane Taubira, garde des Sceaux, démissionne, signalant tout aussi brutalement le risque que fait peser aujourd'hui sur la démocratie un gouvernement auquel elle ne peut plus donner sa voix. Car qu'est-ce qu'une démocratie où on limite les droits des citoyens sous prétexte de les protéger, où l'on trafique la citoyenneté, où l'on cuisine des lois indignes, comme celle qui suscite cette démission, preuve que même une ministre, bien sûr pas n'importe quel ministre, peut faire acte de désobéissance civique.
Merci beaucoup Sandra Laugier. Je rappelle que vous enseignez la philosophie à l'université Paris 1 Panthéon, la Sorbonne. Et oui, voilà donc un autre sujet d'actualité qui donnera lieu tout à l'heure à d'autres commentaires, sans doute d'autres philosophes. C'est donc la démission de Christiane Taubira, vous l'évoquiez à l'instant Sandra. L'ancienne garde des Sceaux est ce matin à la une de presque tous vos journaux. Parfois résister c'est partir, a tweeté Christiane Taubira. C'est d'ailleurs un beau sujet de philo. Christiane Taubira qui avoue un désaccord majeur avec François Hollande et Manuel Valls sur la déchéance de nationalité. Pour la remplacer au ministère de la Justice, l'exécutif a choisi dans la foulée un proche du Premier ministre, un homme très en pointe sur les questions de sécurité. Frédéric Seyss.
Lorsqu'on interroge les députés sur Jean-Jacques Urvoas, on pourrait vite conclure que le nouveau ministre de la Justice est en quelque sorte l'anti-Taubira. Il est aussi placide qu'elle est lyrique, aussi technique qu'elle est passionnée, aussi consensuelle qu'elle est clivante. Pourtant, même ceux qui apprécient Urvoas décrivent un homme déterminé et parfois presque entêté, Hugues Fourage est député PS de Vendée.
C'est un Breton qui a cette qualité de savoir ce qu'il veut. Mais en même temps, quand on regarde la façon dont il a géré la commission des lois, il l'a géré avec tact, avec doigté, il est capable justement d'écouter et de faire avancer les choses.
Urvoas est carré, rigoureux, clair, note la députée Cécile Untermaier, qui a beaucoup travaillé avec lui en commission des lois. Un atout, estime-t-elle, au moment où les décisions politiques sont de plus en plus passées au laser par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. Les communistes grognent certes un peu contre ce tenant d'une ligne sécuritaire, mais difficile de lui trouver des ennemis, y compris à droite. On y loue sa capacité d'écoute, son humour, sa droiture. Il est vrai qu'après avoir dit pendant des semaines que Christiane Taubira était la pire ministre possible, la cohérence implique un peu de retenue, à l'image du député LR Georges Fenech.
Écoutez, moi je lui accorde tout mon crédit, toute ma confiance parce que j'ai vu sa présidence à la commission des lois. C'est un grand juriste, incontestablement. Et je crois que par rapport à Madame Taubira, il a davantage de soucis de l'ordre républicain et de la sécurité.
Cela dit, plusieurs députés de droite font remarquer que Jean-Jacques Urvoas était réticent sur la prolongation de l'état d'urgence et pointent un risque de contradiction. Ce qui permet même de faire en creux un compliment inattendu à Christiane Taubira. Au moins, elle a gardé sa cohérence, explique Hervé Mariton, qui l'a combattue au moment du mariage pour tous. On finit toujours par trouver des qualités à ceux qui sont partis.
Voilà, en fin de juteux contrat en perspective avec l'Iran, le président Hassan Rouhani termine en effet ce soir sa visite en France. On évoque notamment un contrat important avec le constructeur automobile PSA Peugeot Citroën. Il pourrait concerner 200 000 véhicules par an coproduits en Iran avec Téhéran et peut-être un autre accord à venir sur un prochain achat de plus d'une centaine d'Airbus.